Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Je suis ravie de vous retrouver dans votre magazine Bien fait pour vous sur Europe 1, Europe 1 radio officielle de Roland Garros. Et d'ailleurs nous y sommes, on vous parle depuis notre studio au pied du cours Philippe Châtrier. Alors aujourd'hui Mélanie, qu'est-ce qu'on a concocté pour nos auditeurs?
Alors voici le programme avec les bienfaiteurs d'Europe 1, on les retrouvera à 11h45. Alors aujourd'hui dans le duo, il y aura Cécile Coumeau, celle qui teste pour nous les nouvelles activités du moment. Alors celle du jour, elle n'est pas tout à fait nouvelle, ce sont les cours d'échecs, mais désormais le roi des jeux, qui est même le seul à être reconnu comme un sport, débarque dans les écoles. Cécile a été voir ce que ça donne en classe. Et puis on terminera avec la chronique d'Amélie Escourou. Ce matin, Roland Garros oblige, elle nous propose un coup de projecteur sur les fruits et légumes qui aident le plus pour la récupération des sportifs.
Mais avant tout ça, dès le début de l'émission, on va justement mettre à l'honneur un fruit qui a la cote ces temps-ci. Si je vous dis qu'il est parfois jaune ou même vert, qu'il est toujours acide et qu'on lui prête mille et une vertus, vous avez compris, il s'agit du
citron.
Bravo Mélanie. Source de vitamine C, détoxifiant, ingrédient miracle dans nos cosmétiques ou même dans nos produits ménagers. Et si tout cela n'était que poudre aux yeux, on va donc démêler le vrai du faux sur notre agrume favori. Et celui qui a enquêté sur le sujet, c'est le docteur Patrick Lemoine. On va l'accueillir juste après le point de vue de Clément Lanoux.
Europe 1.
Bonjour Clément.
Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde. Oh là là, j'adore le sujet du jour, le citron. Je dois vous l'avouer, j'ai une histoire particulière avec le citron. Plus qu'une histoire d'amitié, c'est une histoire d'amour. Et aujourd'hui, j'aimerais profiter de cette antenne pour lui déclarer ma flamme. Mon cher citron, depuis que nos chemins se sont croisés, j'ai été séduit par ta saveur acidulée et ton parfum rafraîchissant. Sous tes petits airs de balle de tennis, tu me fais fondre comme un sorbet en plein été. Je sais que certaines personnes peuvent te trouver trop acide, voire un peu piquant parfois. Mais bon, tu es comme ça, c'est toi, c'est ton humour et c'est justement ce qui fait ton charme. Ah, même quand tu étais tout petit et vert, dans mes mojitos, je t'avais déjà remarqué. Mais c'est sur le poisson que j'adore te faire couler. Alors désolé hein, d'être aussi cru, mais en même temps tu l'es aussi. Mais sache que j'aime te prendre dès le réveil. Avant de déjeuner le matin, il paraît en plus que c'est bon pour la santé. Tu donnes du peps à ma vie. Tu me fais voir la vie en jaune. Tu m'apportes une touche de fraîcheur dans les moments difficiles, mon cher citron. Bien sûr, je t'ai souvent attaqué. Mais je t'ai toujours pressé avec amour. Chaque goutte de ton jus est, paraît-il, bon pour la santé. Alors je sais ce que tu vas me dire, il y a aussi Orange. Mais Orange, c'est pas pareil, c'est juste un ami. Et puis c'est la famille, quoi, Orange. On peut pas... En revanche, Pamplemousse, j'ai définitivement rompu. Oui, ça a été dur, ça m'a laissé un petit goût amer, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, mon palais est prêt à t'accueillir. Alors je sais qu'il y aura des pépins à m'enlever sur mon drap. D'ailleurs, je sais que tu es antioxydant. Mais laissons nos opinions politiques et nos querelles de côté. Parlons amour. Alors mon cher citron, veux-tu être mon partenaire de vie, mon allié culinaire, mon ami, pour toujours? Je t'aime, ma petite agrume préférée.
C'est pour nous ça?
Bah oui, je crois.
C'est nous? Mais merci Clément Lanoux, mais quel beau poème. Maintenant nous allons donner la parole à notre invité, à celui qui a enquêté sur notre agrume préférée. Bonjour docteur Patrick Lemoine.
Bonjour Julia, bonjour.
Mélanie.
Comment ça va?
Alors vous êtes psychiatre, vous êtes docteur en sciences et vous êtes également l'auteur de ce livre « Le citron, cet imposteur » et c'est paru chez Humaine Sciences. On va d'abord tenter de remonter aux origines du citron avec vous, docteur Lemoine. Et déjà là, c'est une inconnue. On ne sait pas réellement d'où il provient. Vous dites même que c'est un SPF, sans pays fixe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Et non seulement c'est un SPF, mais en plus c'est un OGM.
Donc ah bon?
Il n'existe pas. Et c'est une pure création génétique. On a mélangé un bigaradier avec un cédrat et ça a donné le citron. Donc c'est deux agrumes presque immangeables dont on a fait un truc mangeable, mais pas de bol pour lui, il est jaune. Et le jaune, c'est la couleur maudite depuis toujours. Ça a toujours été depuis le Moyen-Âge. Regardez.
On dit jaune cocu, je crois.
Exactement. Oui, Mélanie, regardez dans votre église préférée les vitraux, si elle est médiévale. Deux personnages sont en jaune. Saint-Joseph, parce que c'est le cocu de l'histoire, et puis également Judas, parce que c'est le traître. Donc le jaune, c'est la traîtrise, et on voit, ça a bien été montré dans le poème qu'on vient d'entendre, c'est que c'est un escroc, quoi. C'est-à-dire qu'il est extrêmement bon en com, il communique magnifiquement bien, mais tout ce qu'il promet, c'est faux.
Alors si on aime le citron, c'est parce qu'il est réputé contenir énormément de vitamine C. Mais il faut savoir, avant de venir justement sur cette histoire de vitamine C, que notre corps tout seul, il n'est pas capable de synthétiser de la vitamine C. Donc à partir de quand on a compris, ou enfin, en tout cas on s'est dit, tiens, c'est important de manger des citrons et plus généralement des aliments riches en vitamine C.
Alors, faut pas oublier que le citron n'est pas très riche en vitamine C, contrairement à ce qu'il a voulu faire croire.
Et c'est vraiment un mytho, hein, ce citron.
C'est un mytho complet. Mais ça m'amuse beaucoup. Vous savez, je suis un spécialiste du sommeil et mes patients insomniaques me disent, vous savez, docteur, le soir, je prends jamais de citron parce que la vitamine
C. Ça excite.
Je dis, mais de temps en temps, une petite salade avec du persil, avec du cassis, avec des poivrons rouges. Ah oui, il n'y a pas de problème. Ils ont 20 fois plus de vitamine C que le citron et ça n'empêche pas de dormir.
Mais la vitamine C, c'est super important. Beaucoup de marins, lors d'expéditions, mouraient de scorbut. Hein. C'est quoi cette maladie d'ailleurs? Vous pouvez nous faire un petit rappel?
Alors effectivement, on est un des rares animaux, avec le cochon d'Inde, puis quelques autres primates, à ne pas être fichus de fabriquer cette vitamine C. C'est pour ça que c'est vitamine, c'est amine vitale. Donc il y a eu la A, la B, puis après c'était la C. Et si on n'en a pas, c'est-à-dire qu'on ne mange pas de fruits et légumes, les 5 fruits et légumes frais par jour, eh bien, les dents se déchaussent, on saigne de partout, on commence à s'infecter et on meurt de façon effroyable. Saint-Louis, par exemple, est mort du scorbut avec presque tous les croisés. Et les marins, on a eu des expéditions, à 95% des marins mouraient du scorbut.
Ah, c'est dingue, c'est dingue. Ah, effectivement, si le citron ne fait pas son boulot en vitamine C, il va falloir trouver d'autres solutions, docteur.
Alors, mais on ne sait pas faire, effectivement, oui. On ne sait pas le fabriquer. Et malheureusement, à cause de la plus grande fumisterie de tous les temps, qui a été inventée plus ou moins par Hippocrate, reprise par Aristote, par Galien, c'était la théorie des humeurs, qui était une fumisterie. Les Chinois, ils n'ont pas fait mieux. Nous, on avait 4 humeurs, 5, mais ça ne marchait pas mieux. Et donc, eh bien, comme tout devait coller avec la théorie, les gens dans le désert, ils mouraient parce que c'était trop sec. Et puis, s'ils mouraient en mer, parce que c'était trop humide. Si c'était au pôle, parce que c'était trop froid. Et on corrigeait, et ça ne marchait pas du tout.
Merci à vous, docteur Lemoine. On va revenir avec vous dans quelques minutes, car on a beaucoup de choses à apprendre encore sur le citron, la vitamine C, les vertus ou pas, justement. Apparemment, beaucoup de fake news circulent, notamment sur cette vitamine C qu'il contient. Et on va mettre tout au clair sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1 et ce matin, on parle du citron à toutes les sauces. Et surtout, on fait le point sur toutes les fake news sur la vitamine C. On fait ce point avec vous, docteur Patrick Lemoine. Je rappelle que vous êtes psychiatre, docteur en sciences et l'auteur de ce livre, Le citron, cet imposteur, paru chez Humaine Science. Alors, on l'a dit hein, avant la pause, le citron, pour beaucoup, c'est l'emblème de la vitamine C. Alors que dans votre livre, on apprend que c'est un gros mytho et qu'il est loin d'être l'aliment le plus riche en vitamine C. La question est donc, quels sont les aliments qui en contiennent le plus ?
Alors, sur les 15 premiers, le top, c'est le cassis.
Ah bon ?
Le deuxième, c'est le persil.
Rien à voir.
Le troisième, le poivron rouge. Le quatrième, le poivron vert. Bon, après,
et l'orange ?
Elle est à peine au-dessus. Le citron, il est 13e sur 15.
Ah oui, c'est pas bon.
L'orange, elle doit être 11e.
Alors, pourquoi on l'a toujours mis en avant comme ça, le citron ? Pourquoi on a dit, enfin, on a dans l'esprit en tout cas, que c'est soi-disant très riche en vitamine C ? Je crois que c'est parti, vous l'expliquez dans le livre, d'une expérience d'un médecin militaire. Pardon. Racontez-nous.
Alors, il y a eu un mec absolument génial, c'était un médecin militaire à l'époque où, en mer, comme on venait de faire les grandes découvertes et que le monde avait été partagé entre deux, le Portugal et l'Espagne, et bien les gens se sont lancés et ont arrêté de caboter le long des côtes. Parce que tant qu'ils cabotaient, il n'y avait pas de scorbut, pas de déficit en vitamine C, puisqu'ils se ravitaillaient à chaque escale. Et quand il fallait traverser les océans, là, ça devenait grave. Et on a eu des marins où il y a eu plus de 90 à 95% des gens qui mouraient du scorbut par carence. Et tous les mythes sont venus. Et heureusement, il y a ce James Lind, qui est un type extraordinaire, qui a inventé la première vraie étude scientifique pharmacologique. Et il avait entendu parler du citron, qui est quand même efficace pour les gens qui n'ont pas de vitamine C. Et il a pris 12 marins et il a fait 6 groupes de 2 marins qui avaient tous le scorbut. Et l'idée de l'époque, c'est que le scorbut, comme c'était en mer, c'était trop d'humidité. Donc, il fallait prendre des capteurs d'humidité, l'acide. Donc, il y en a qui ont été au vinaigre. Il y en a qui ont été au citron, qui est acide. Il y en a qui ont été au cidre. Il y en a qui ont été à l'eau de mer. D'autres à la poudre de...
De perlimpinpin.
Non, la poudre de perlimpinpin, c'était surtout l'eau de mer, quand même.
C'est ça.
Il y en avait qui avaient une espèce de pâte...
Et qui a gagné ?
Bon. Et alors, Il est allé au bout, c'est-à-dire qu'il y a quatre groupes de deux qui sont morts.
Oh là là.
Parce qu'ils avaient de l'eau de mer, parce qu'ils avaient des trucs qui ne marchaient pas. La vitamine C, ils sont guéris en deux jours. Et puis, les gens avec le cidre, il y a un peu de vitamine C quand même dedans, ont guéri, mais plus lentement. Mm-hmm. Mais il est resté quand même convaincu de la théorie dominante de l'époque, que c'était trop acide, ce qu'il aurait pu comprendre, puisque le vinaigre, c'est acide et ça ne marchait pas.
Et cette vitamine C, on la retrouve dans beaucoup de compléments alimentaires, contre les maux de l'hiver, comme les rhumes par exemple. Est-ce que c'est vraiment efficace dans cette indication parce que moi, j'en prends tout le temps, vous aussi, Mélanie.
Elle prend beaucoup de compléments alimentaires.
Ouais. Mais, et notamment en vitamine C. Est-ce que ça sert à quelque chose qu'on a...
Il y a une étude formidable qui a été faite là-dessus. Prenez tous les auditeurs d'Europe 1, vous les divisez en deux groupes, en aveugle, et depuis l'automne jusqu'au printemps, la moitié va recevoir la vitamine C, l'autre moitié du placebo. Et vous regardez, ça a été fait avec des amphis. Et effectivement, il y avait un petit peu moins de rhume chez ceux qui avaient eu la vitamine C. Mais il y a des esprits mal tournés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va regarder la croyance. Donc il y a quatre groupes, ceux qui ont eu la vitamine C qui avaient compris, on les oublie. Ceux qui ont eu du placebo qui avaient pigé, on les oublie aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est ceux qui avaient eu du placebo et qui étaient convaincus qu'ils avaient eu de la vitamine C, et ceux qui avaient eu de la vitamine C persuadés d'avoir eu du placebo. Et qui a gagné? C'est ceux qui avaient eu du placebo, convaincus d'avoir des vitamines C.
C'est donc, dingue, hein, nos croyances.
Qui guérit le rhume, c'est la croyance dans la vitamine C, c'est pas la vitamine C.
Mais c'est de la folie, comment ça fonctionne ça? Parce que je crois prendre de la vitamine C, j'ai moins de rhume, mais comment vous l'expliquez?
Exactement, ah, ben c'est très simple. J'ai publié modestement un livre qui s'appelle « Le mystère du placebo », et on voit que quand on guérit parce qu'on pense avoir pris un truc super, que le médecin est génial, etc., eh bien, on fabrique des médicaments naturels endogènes. Et donc, ça permet de, quand on croit qu'on a pris la vitamine C qui est bonne pour le rhume, eh bien, on va fabriquer des trucs immunitaires qui vont guérir le rhume.
Donc, la force de l'esprit peut être meilleure que le citron. Autre croyance populaire, c'est l'effet de la vitamine C sur le cancer. Ça remonte à quand, cette idée-là?
Alors, c'est un double prix Nobel qui s'appelle Linus Pauling, qui était un peu vieillissant. Et lui, il ne connaissait rien à la médecine. C'était un prix Nobel de chimie et prix Nobel de la paix. Et un jour, il y a un de ses amis qui lui dit « Oh, je voudrais vous garder longtemps en bonne santé. Prenez tous les jours plusieurs grammes de vitamine C et vous verrez, vous et votre femme, vous vivrez très longtemps en très bonne santé. » Et lui, il a trouvé l'adjuvance. Il a développé toute une théorie où ça guérissait le cancer, la schizophrénie, le rhume, la grippe, etc. Et une des grandes plaies de la médecine, c'est l'argument d'autorité. Et donc son livre, c'était « Comment guérir le rhume et les autres maladies par un prix Nobel ». Évidemment, si je suis prix Nobel, je ne peux pas me tromper.
Exactement.
On
a parlé des compléments alimentaires à base de vitamine C, là, juste avant. Selon vous, il vaudrait mieux manger des aliments riches en vitamine C plutôt que des compléments en gélules. Alors, pour quelle raison?
Parce que la nature est assez bien faite. Et à partir du moment où vous prenez la vitamine C avec tout ce qui compose un poivron, du persil et tout, l'absorption et l'utilisation par le corps humain est meilleure. Donc, quand mes patients me disent... j'avais l'impression que j'avais une carence et j'en ai pris, parce qu'ils savent bien que je rigole quand ils me parlent de cataracte, de schizophrénie ou de tous les maux que c'est supposé, de brûleurs, de graisse, etc. Mais je leur dis, mais arrêtez avec vos machins industriels. Prenez donc du kiwi. Prenez
du cassis.
Cassis, c'est bien mieux.
Du poivron. Merci à vous, docteur Lemoine. On vous retrouve dans un très court instant pour dévoiler encore d'autres secrets sur le citron. Nous sommes toujours en direct du tournoi de Roland-Garros. D'ailleurs, si vous êtes de passage, n'hésitez pas à venir nous voir. Là, on est au pied du cours Philippe Châtrier. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
On est avec vous jusqu'à midi, bienvenue si vous nous rejoignez. On met le citron à l'honneur ce matin sur Europe 1. Le citron, cet imposteur, car apparemment on en a dit des bêtises depuis toujours sur ce dernier, sur la vitamine C qu'il contient. C'est le docteur Patrick Lemoine qui nous aide à y voir plus clair ce matin. Alors on a vu, docteur, précédemment que le citron ne traite pas vraiment, n'aide pas vraiment à prévenir les rhumes. Contre le cancer, c'est pas terrible non plus, il n'y a pas vraiment de preuves. On va voir maintenant quelles sont ses vertus tout de même. Parlons d'une première assez étonnante, et je pense qu'il y a peut-être une des seules sur laquelle il y a des preuves. Si on consomme du citron, et je crois quand même pas mal de citron, peut y avoir un effet bénéfique sur la cataracte.
Alors, si on consomme de la vitamine C,
voilà,
parce que l'étude a été faite avec la vitamine C, puisqu'on connaissait bien le dosage. Et effectivement, parmi toutes les indications qui ont été proposées, je mets à part le scorbut, bien sûr, puisqu'il y a un déficit, une carence, mais effectivement, pour ralentir la progression de la cataracte, prendre beaucoup de vitamine C tous les jours, longtemps, pourrait avoir un effet ralentisseur, je dis bien au conditionnel. Tout le reste est à mettre au panier.
Attendez, attendez, j'ai pas dit mon dernier mot, parce que si on regarde sur Internet les bienfaits du citron et de la vitamine C, on peut lire parfois que ça agit comme un brûle-graisse.
Ça m'étonne pas que vous ayez regardé ça sur Internet.
Oui, je regarde, moi. Est-ce qu'il y a du vrai, docteur Lemoine? Parce que moi, je prends un jus de citron tous les matins, un peu tiède, avec un peu de gingembre. Est-ce que ça aide à mincir?
Non, ça vous garde en pleine forme, mais c'est parce que vous y croyez. Mais en fait, le côté brûle-graisse est complètement erroné.
Oh non!
Depuis tout à l'heure, on dit le citron, mais on devrait dire même les citrons, puisqu'il y en a plusieurs, notamment les verts, les jaunes, et puis j'en passe, hein, parce qu'il y a différentes variétés. Est-ce qu'il y en a certaines quand même qui sont riches que d'autres?
Il y en a quelques-uns qui sont un peu plus riches. Alors, je ne sais pas de mémoire.
Ça se joue à pas grand-chose.
Mais ça se joue à peu de choses. Et je me répète, le citron n'est pas très bien placé en termes de vitamine C.
Bon, en tout cas, par contre, je crois quand même que le citron contient beaucoup d'antioxydants. C'est vrai ou pas?
La vitamine C en soi est quand même un antioxydant.
Mais les autres,
c'est pas le plus puissant. Le plus puissant de tous les antioxydants, c'est la mélatonine. Et le fait de prendre de la mélatonine, effectivement, est probablement quelque chose de très important, de très utile. D'autant plus que plus on prend de l'âge, moins on en fabrique. Et donc, moi, j'ai pas peur d'en prescrire beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ah, carrément?
Ah bah, vous en prenez déjà, c'est pas la peine.
Mais non, mais là, on avait une auditrice tout à l'heure qui nous a laissé un message et qui disait qu'elle prenait de la vitamine C tous les jours.
De la mélatonine, de la vitamine
C. Oui, mais elle a dit qu'elle a
remarqué. Ouais. C'est Céline, hein, ouais. Qu'on embrasse d'ailleurs.
On embrasse, elle dit qu'elle a une belle peau. C'est la croyance, ça ou...
Non, mais je pense qu'elle prend soin d'elle, tout simplement. Donc ça doit bien marcher.
Qu'elle continue comme ça, alors.
Et qu'elle continue, et surtout si elle y croit, parce que ça va forcément marcher.
Et si on
la mélatonine, c'est une autre question. Ouais. Parce qu'il y a quand même de plus en plus d'études en cancérologie où on associe. Pour faire le traitement, la chirurgie, la chimio, etc. Mais si on associe de la mélatonine, ça marche mieux.
Et dites-moi, par rapport aux fumeurs, est-ce qu'eux, ils ont plus besoin de vitamine C que les autres? Et si oui, ouais. Pourquoi?
Oui, oui, bah parce que la nicotine détruit la vitamine. Donc, il y a un plus gros besoin. C'est d'ailleurs à l'origine d'une des croyances qui n'était pas erronée cette fois-ci. Pour expliquer le scorbut, on disait que c'est à cause du tabagisme. Et puis, comme en plus, le scorbut respectait l'épaulette, c'est-à-dire que les officiers ne tombaient pas malades, bah c'est évidemment parce que les marins, c'est des gens de mauvaise vie, qui allaient voir une fille dans chaque port, qui faisaient des choses entre eux quand ils étaient dans... Alors que forcément, les officiers étaient des gens très moraux, mais on leur donnait quand même des fruits frais tous les jours, en plus.
Vous avez dit les fumeurs, parce que donc, le tabac nuit à
C'est un adducteur enzymatique.
Exactement, mais est-ce que si je vis dans un environnement de fumeurs, est-ce que c'est pareil, j'ai le même risque et je vais être à risque d'avoir pas assez de vitamine C?
Bien sûr.
Donc on fait quoi? On complémente chez ces gens-là? On en consomme davantage dans l'assiette,
ça,
probablement.
Parfait, oui, oui. Ce qui compte, c'est l'assiette, beaucoup plus que des trucs qu'on achète industriellement.
Mais si je mange beaucoup d'agrumes ou d'autres aliments riches en vitamine C, est-ce que je risque un surdosage? Est-ce que ça existe, ça? Et est-ce que c'est potentiellement dangereux?
Non. Non, a priori, non. Quand on surdose, on élimine.
Vous avez parlé du scorbut depuis tout à l'heure, puisque c'est là, effectivement...
Vraiment d'énormes doses pour avoir des surdosages. Mais ça a été décrit, mais franchement, il n'y a pas de risque.
Le scorbut, donc j'y reviens. Est-ce que c'est une maladie qu'on retrouve encore aujourd'hui? Alors peut-être pas en France, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a des cas encore de scorbut ici ou dans le monde?
Mélanie, vous m'auriez posé la question il y a 15 jours, je vous aurais dit, ça a disparu d'Europe et de tout l'Occident. Il n'y a plus que quelques catastrophes humanitaires, des populations déplacées, des grands désastres.
Mais...
Et là, on en voit. Et le jour de la sortie de mon bouquin, le 31 mai, j'ai vu le premier scorbut de ma vie.
En France?
En France, dans l'Isère. Et une dame tout à fait bien, mais qui déteste tous les légumes frais, tous les fruits frais, et qui me disait, il y a 2 mois, c'est bizarre, je saigne des gencives, j'ai perdu 2 dents.
Oh là là.
Et puis une plume m'effleure, et je fais des bleus. Elle m'a montré des bleus monstrueux. Elle avait un bras, mais qui était couvert de bleus. On a vite fait un bilan. Elle avait un début de scorbut.
Wow.
Je lui ai donné de la vitamine C et en 2 jours, elle était guérie.
Ah oui, donc on peut régler ça très rapidement.
C'est extrêmement rapide. Et même les gens qui étaient à l'article de la mort guérissaient. Saint-Louis, par exemple, quand il a été fait prisonnier parce que tous les croisés mouraient du scorbut en Égypte, les médecins arabes, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'était en hiver. Le printemps est arrivé, il y a eu des fruits et légumes frais.
Il s'est remis.
Il a guéri, alors qu'il était à l'article de la mort. Et tout l'Occident a dit, mais qu'est-ce qu'ils sont bons, ces médecins.
Et c'est quoi les signes quand on manque de vitamine C dans le corps? Qu'est-ce qui doit nous donner l'alerte?
Écoutez, Julia, prenez un bateau, allez en plein mangez que des biscuits et des charcuteries.
Et normalement,
et vous verrez,
marcher.
Au bout d'un moment, vous aurez des bleus tout le temps.
C'est ça, les bleus.
Vos gencives vont saigner, vont enfler, vont se déchausser. Vous allez avoir plein d'infections. et vous allez mourir. Alors, selon les textes...
Donc manger des fruits et légumes.
Notamment de Joinville, qui était le chroniqueur de Saint-Louis, dans une pestilence
épouvantable. Ah non, c'est pas mon genre. Hein.
D'où d'ailleurs le contresens. On disait toujours que Saint-Louis était mort de la peste, parce qu'il y avait une pestilence, parce qu'il puait les pauvres.
Oh les pauvres.
Mangeons des fruits et légumes.
Je vais quand même manger du citron. Hein. Merci docteur Lemoine pour votre éclairage de ce matin. Je rappelle que les fake news et les vérités autour du citron et de la vitamine C sont tous détaillés avec brio dans votre livre Le citron, cet imposteur, c'est paru chez Humaine Science. Merci encore. Mélanie, on passe à quoi à présent?
Alors on va accueillir un duo de bienfaitrices d'Europe 1. Ce matin au micro, il y aura Cécile Coumeau qui a enquêté sur les bienfaits des échecs pour nous, mais aussi pour les plus jeunes. Mais vous savez que certains profs aujourd'hui, Julia, utilisent ce sport en classe.
Ah oui,
un petit reportage qui va arriver. Et puis avec Amélie Escourou, on va voir qu'il y a des fruits et légumes qui sont très utiles pour la récupération des sportifs. Peut-être qu'on reparlera du citron, qui sait. La réponse dans quelques minutes sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. On reste ensemble jusqu'à midi et nous sommes maintenant avec deux des bienfaitrices d'Europe 1. Amélie Escourou, bonjour.
Bonjour.
Alors dans votre chronique tout à l'heure, on va apprendre à récupérer, mais dans l'assiette.
Exactement, grâce aux fruits et légumes qui, on le sait maintenant, ont vraiment plein de bienfaits.
Eh bien, c'est bien fait pour nous, ça. C'est génial. Merci Amélie. Ce sera à vous dans un instant, juste après avoir écouté Cécile Coumeau. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de l'unique jeu qui est reconnu comme un sport, les échecs. Ce sont des athlètes comme ceux qui sont actuellement juste à côté de nous à Roland-Garros.
Alors, je ne sais pas si on peut vraiment les comparer, mais en tout cas, le Comité international olympique a étudié la question et a conclu que oui, les échecs étaient un sport. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des règles, vieilles de 1500 ans quand même, des compétitions internationales et une vraie implication physique. Il suffit de voir des compétitions de blitz-échecs. Vous savez, quand il faut aller super vite, la vitesse de déplacement des pièces, la dextérité, c'est incroyable. Hein.
Oui, mais alors c'est quand même un sport qui fait surtout marcher, on va dire, les doigts et le cerveau, quoi.
C'est vrai, vous avez raison, Mélanie. On sait que ce jeu mobilise la mémoire, la logique, la concentration, etc. Et c'est pour ça que la Fédération française des échecs et l'Éducation nationale, eh bien, ils ont signé une convention qui vise à développer un programme qui s'appelle Classe Échecs. Et 1700 classes du CP au CM2 partout en France, eh bien, elles ont été équipées en échiquier.
Mais c'est quoi le but du jeu?
Alors, c'est de développer toutes ces compétences en jouant, comme me l'a confié le président de la Fédération française des échecs. Alors, aux échecs, on ne fait que calculer des variantes. Vous imaginez le pied, on fait des maths sans le savoir, donc c'est cool. Alors, pour Valérie Moncourtois, qui est enseignante à l'école Paul Bert de Chevilly-Larue dans le Val-de-Marne, c'est bien plus que des maths.
Moi, je parlerais plus de raisonnement. On ne fait pas de table de multiplication, on ne fait pas des additions. Mais par contre, on leur demande de raisonner et d'argumenter. Comment tu as pu anticiper le coup de ton adversaire? Et je pense que c'est ça qu'on travaille, en fait, c'est le raisonnement.
C'est pas mal, hein?
Voilà.
Moi, je trouve ça intéressant. Mais...
Donc, vous allez voir, je suis allée dans la classe de CM1, où je me suis rendue un vendredi après-midi, et on commence par des petits exercices de mise en jambe.
Vous reprenez donc le pion noir, on le met en E7, le roi noir, on le met en E4, roi blanc en C3, pion blanc en D2, tour blanche en F1. Alors, où peut se déplacer le roi, Mohamed?
On peut déplacer le noir en F4. Non.
Si je le mets en F4, qu'est-ce qui se passe, Delia? Il se fait manger par la tour blanche, donc je ne peux pas le mettre. Pourquoi on ne peut pas le déplacer en D3, par exemple? Franck?
Il va se faire manger par le roi.
Oui,
échec et mat.
Oh là là, mais rassurez-moi Cécile, moi j'étais à la place du petit Mohamed, j'avais trop peur, je ne sais pas où mettre le jeu, enfin le roi, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais est-ce qu'ils ont quand même le droit de jouer après? Parce que là, ça a l'air très sérieux, hein.
ils peuvent s'amuser. Évidemment, ils commencent par des petits exercices, ils attendent que ça. La classe est d'ailleurs étonnamment calme, et ce climat apaisé, c'est aussi un des bénéfices de la classe échec. Ils apprennent à se connaître, à échanger entre eux sans agressivité. Valérie Moncourtois a observé un autre atout.
On a des élèves qui peuvent être en difficulté dans certaines matières, et du coup, comme ils sont en réussite aux échecs, ça leur permet aussi à un moment donné dans la classe sur d'autres domaines de pouvoir se dire je vais essayer et ça se trouve je vais réussir.
Alors ça évidemment ça n'empêche pas un certain esprit de compétition.
Ah, il m'a mangé ma reine, tu vas voir, fallait pas faire ça. Je vais libérer mon fou énervé.
Bah moi, je bougeais ma tour énervée.
T'es en échec, Maria, mais je t'ai échec et
mal. Mais tu m'as même pas dit.
Si, je l'avais dit.
Cricheuse, va.
Il l'a lâché, sa reine, elle était là.
On arrive. Alors, tu te rappelles que les règles, c'est si je la pose et que je lâche la pièce, elle est posée.
Il
je
l'a
peux
l'a
pas
posée,
la reprendre.
Il l'a lâchée.
Tu t'es aperçu après, bah oui, ça arrive, hein, Djibril. Tu t'es aperçu après que tu avais fait une bêtise. C'est pas grave, tu recommenceras pas la prochaine fois.
Mais Cécile, est-ce que tous les élèves apprécient les jeux d'échecs?
Bah écoutez, j'ai été étonnée, mais cela semblait faire l'unanimité. Et certains adorent le côté stratège et d'autres autre chose.
Quand on joue avec quelqu'un d'autre, bah, ça fait du bien de gagner.
Voilà, donc vous voyez, on peut commencer en plus, alors jouer très tôt, hein, vers dès 3-4 ans, on peut commencer à jouer.
Ouais.
Et sachez qu'il y a pas mal d'études en plus qui démontrent que l'impact positif des échecs, c'est les enfants qui sont atteints de troubles autistiques, de 10 ou en cours de troubles de l'attention et d'hyperactivité. Bon, donc c'est bien pour tout le monde.
On tout bon. Merci Cécile, on change de bienfaitrice à présent. On reste dans une autre forme de sport. Amélie Escourou, vous êtes notre bienfaitrice qui nous aide à végétaliser nos vies. On sait que faire du sport, c'est bien, mais se sentir bien dans son corps pendant et après l'effort, c'est encore mieux. Pour ça, les fruits et légumes sont là.
Oui, et pour commencer, bah, je vous ai apporté un petit smoothie.
Oh, merci.
Quasiment le même que
combien on avait soif.
Voilà, Venus Williams tous les matins. Parce que vous aussi, hein, Mélanie et Julia, vous
êtes... Ah là, ça y est, on est prête à taquiner de la raquette.
Exactement, ouais. Voilà, parce que vous aussi, vous avez besoin d'énergie. Alors, il y a de la fraise, du cassis, de la cerise et de la betterave.
C'est délicieux.
Oh, bah, je suis contente que ça vous plaise.
Vraiment, vous avez fait ça avec un extracteur de jus?
Non, même pas, au mixeur plongeant.
Bah, c'est très bien fait, bravo.
Mais c'est aussi parce que j'ai été sympa et j'ai pas ajouté les épinards dedans.
Oh, merci.
Et si Venus Williams boit ce smoothie, c'est pas juste parce qu'il est délicieux, mais parce que cette boisson miracle va lui permettre de mieux jouer, de mieux récupérer et du coup de moins ressentir de fatigue après l'entraînement.
Mais ça, c'est grâce aux vitamines qu'il y a dedans ou pas?
Oui, entre autres, et plus précisément grâce aux antioxydants qui sont très précieux pour les sportifs. En fait, quand on fait un effort physique, on augmente sa consommation d'oxygène pour produire de l'énergie. Vous savez, quand on fait peu de sport, hein, comme moi, vous voyez. Et dans un premier temps, ça stresse l'organisme qui se met à produire ce qu'on appelle du stress oxydatif. Et ce stress oxydatif, en excès, il est vraiment nocif. En fait, il va ralentir la récupération, créer des douleurs, de la fatigue. Et à long terme, bah, il est suspecté d'affaiblir les défenses immunitaires et même de favoriser l'apparition de maladies type diabète, cancer ou maladies cardiovasculaires.
C'est donc pour se protéger de ça, de tout ce que vous venez de citer, qu'on a besoin des antioxydants.
Hein, exactement. Et la nature est bien faite, hein, parce que ces antioxydants, il y en a une partie que le corps fabrique lui-même et tout le reste, il se retrouve dans notre alimentation, dans la plupart des végétaux qu'on consomme. Alors, comme la fameuse vitamine C dont vous avez parlé, les vitamines E, A ou K, le bêta-carotène, la curcumine, etc.
Ah oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de sportifs les prendre en complément alimentaire, non?
Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'on pourrait être tenté de faire ça, hein, en se disant, bah, dans mon comprimé, il y en a beaucoup plus que dans mon assiette. Comme ça, j'aurai un effet protecteur encore plus important. En réalité, les dernières études sont formelles. Non seulement on n'obtient pas le même effet bénéfique, hein, lorsque les antioxydants viennent de comprimés plutôt que de végétaux, mais on obtient même un effet négatif qui vient affaiblir la performance et la récupération.
Donc c'est fou, finalement, on essaie d'imiter la nature et on n'y arrive pas.
Exactement, c'est vraiment ça. Et les chercheurs pensent que c'est lié au dosage. Vous voyez, notre alimentation, lorsqu'elle est riche en végétaux variés, elle contient la bonne dose d'antioxydants pour notre corps. On ne risque pas de surdosage. Mais dans un complément alimentaire, on peut avoir jusqu'à 10 fois la dose recommandée. Donc la solution, elle est dans l'assiette et même dans le potager, j'ai envie de dire.
Ah, pas mal. Et qu'est-ce qu'on ramène du potager alors?
Eh bien, un gros panier avant et après un effort sportif important. Ça peut être bien d'augmenter votre consommation de fruits et légumes frais pendant au moins 3 jours avant et 3 jours après, plus hein, si vous pouvez, pour obtenir une meilleure récupération et moins de blessures musculaires comme des crampes et tout ça. Alors, essayez de les consommer crus, sous forme de smoothie par exemple, comme notre amie Venus Williams, pour bien conserver leurs vitamines, et essayez de les choisir de toutes les couleurs, parce que chacun a son rôle à jouer, et c'est la complémentarité qui fait leur force. Alors c'est un arc-en-ciel, on a les fruits rouges qui sont de saison en ce moment, mais aussi la betterave, la grenade, les verts comme le kiwi ou les épinards, les oranges et les jaunes comme les carottes, la mangue, le poivron ou le pamplemousse, et même les bleus avec les myrtilles.
Et donc au quotidien, on a de toute façon besoin d'antioxydants, il n'y a pas que si on est sportif.
Oui, hein. Tout à fait, on en a besoin aussi, mais dans des doses un petit peu moins élevées. Alors on garde évidemment bien sûr les fruits et légumes au quotidien, et on n'oublie pas tous les autres aliments riches en antioxydants, comme les flocons d'avoine, qui sont très bons au petit déjeuner, les légumineuses dont je vous parlais l'autre fois, vous savez, les haricots secs, les lentilles, mais aussi les noix et les graines de tournesol qui sont super bonnes sur les salades en été, comme ça c'est sympa. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a même qui sont très gourmands pour le dessert. Alors cela, on ne se fait pas prier, comme le chocolat noir.
Oh, bah voilà, c'est parfait. Si en plus, on peut mettre du chocolat dans
Ça, on est d'accord.
On est nickel.
Vous avez bien fait de venir, Amélie. Merci beaucoup. Et merci également à vous, Cécile. On se retrouve très prochainement dans l'émission. Merci à vous, auditeurs d'Europe 1, d'avoir été à l'écoute de Bienfaits pour vous aujourd'hui. On va remettre le couvert demain, Mélanie. On aura quoi au programme?
Une question demain. Savez-vous pourquoi vous n'arrivez pas à mincir? On l'entend souvent, mais vous savez, la silhouette, ça ne se travaille pas que dans l'assiette. Alors, quels sont les facteurs sur lesquels il faut jouer pour perdre efficacement du poids quand on en a besoin? On vous dira tout demain dès 11h.
Mais maintenant, nous allons céder la place à l'info sur Europe 1 avec Romain Desarbes. Bonjour Romain.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Europe 1 Midi arrive, quel est le programme?
Dans Europe 1 Midi, on sera Europe 1 Midi sera entièrement une émission entièrement consacrée à ce qui s'est passé ce matin à Annecy. Un drame absolu. Un Syrien, demandeur d'asile, a attaqué plusieurs personnes au couteau. Il y a 5 blessés, dont 4 enfants. Le pronostic vital est engagé pour 2 enfants et 1 adulte. Nous serons sur place. Évidemment, vous entendrez des témoignages, vous entendrez les informations du correspondant d'Europe 1, les informations de Louis Dragnel, le chef du service politique et chef du service police-justice d'Europe 1, des réactions politiques, étant donné que le profil de l'individu est effectivement particulier, c'est le moins qu'on puisse dire, Syrien demandeur d'asile qui a passé 10 ans en Suède et qui était arrivé en France il y a seulement quelques jours. On sera également avec le commissaire de police Mathieu Vallet, on sera également avec maître Thibaut de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, Europe 1 Midi, édition spéciale Drame de Nice ce matin. A tout de suite.
Merci Romain, à tout de suite.